Alors, salut tout le monde! Vous êtes à Radio Provisoire 99.9 et c'est Geneviève Morissette.
Bonjour, je suis Sean Ferguson. Vous écoutez Radio Provisoire.
Je m'appelle Mehdi Kayen et vous écoutez Radio Provisoire!
Bonjour à toutes et à tous, auditeurs et auditrices du 99.9. Vous êtes dans l'émission Bilan de Fête de la Chanson, 14e édition. C'est déjà l'ultime épisode qui conclut ce beau festival. Nous sommes toujours avec Pierre-Charles. Bonjour Pierre-Charles.
Bonjour Honorine, bonjour à tous.
Alors qu'est-ce qu'on aura en menu dans les grandes lignes aujourd'hui pour conclure ce festival?
Alors pour ce troisième épisode, pour conclure, on aura donc Geneviève Morissette, un long interview qu'on a fait à deux, qui était assez sympa au niveau vocabulaire québécois. Et il y aura aussi toute la dernière journée avec Panenki, donc les six filles de Lille, qui parlent un registre d'Europe centrale et du monde entier. Et le bal des Calais qui a conclu le samedi 23 juin, l'ensemble de cette fête, de ce festival Fête de la Chanson 2018, l'Orchestre International du VTEX.
Et puis, bien sûr, aussi plein d'autres choses qu'on pourra entendre tout au long de cette émission consacrée à ce beau festival. Dans ce spécial Québec, on a pu rencontrer Geneviève Morissette, qui était finalement l'une des têtes d'affiche de ce festival.
Oui, c'est ça, c'est une boule d'énergie, mais avec nous, elle était relativement calme et posée d'ailleurs. C'était avec, justement, tu as posé la question dans une interview publique avec Hervé Dujardin, elle répondait à rien, elle s'adressait directement au public, donc le pauvre Hervé, il a eu un peu de mal à se débattre.
Voilà, et puis nous, on a pu la rencontrer donc, dans le petit salon de l'hôtel de Guine à Arras.
Bonjour.
Bonjour Geneviève. Monsieur, ça va bien?
Ça va.
Alors, c'est quoi votre nom?
Pierre-Charles.
Pierre-Charles. Ouais, voilà. Enchanté Pierre-Charles. Moi, oui. C'est Geneviève.
Enchanté Geneviève. Vous venez d'avoir un prix en Suisse?
Oui, je capote vraiment là-dessus, c'est hallucinant. En plus, je suis allée à Pully-Lavaux, Québec, en Suisse. Je ne savais pas du tout qu'ils remettaient des prix. Je n'étais vraiment pas au courant, parce qu'habituellement, dans un festival, on ne remet pas des prix. C'est pas nécessairement une norme. Donc, voilà, j'ai eu la surprise à la fin du festival. Ils m'ont dit « Reste avec nous » et tout. Puis là, genre, prix meilleure interprète féminine de l'année. Donc, voilà, on était aux anges tous, parce que du coup, j'ai une équipe formidable avec qui j'ai partagé ce moment-là. Et vraiment, c'était super.
Comment vous avez fait en 4 ans pour complètement renverser la francophonie, séduire les Français et aussi les Suisses?
Ben en fait, écoute, moi, mon parcours est très original et très spécial. Je suis débarquée carrément à Paris en 2015. Et il y avait Linda Lemay qui m'avait invitée à l'Olympia de Paris faire des chansons en rappel de ses concerts, mais sans que je sois au courant. Donc, j'étais dans la salle pour écouter son concert et tout d'un coup, elle dit « Ah, j'inviterais Geneviève Morissette à venir chanter », tu sais. Genre de truc qui te prend un peu « Ah! » Puis finalement, c'était génial. Puis je suis un peu tombée en amour aussi avec la culture suite à la résidence que j'ai faite à Stafford avec Francis Cabrel, là où j'ai rencontré Old Delaf, que vous connaissez sûrement. Donc, j'ai écrit une chanson avec lui et j'ai continué, franchement, mon parcours comme ça, sans penser à rentrer parce qu'il y avait des trucs qui s'enchaînaient. Et je suis restée, donc c'est un peu ce choc culturel-là aussi.
Vous êtes programmé dans le cadre de Fête de la Chanson où il y a un focus québécois. L'Europe, peut-être globalement, c'est quelque chose, c'est presque un rêve du Québec, du Canada?
La vérité, c'est que je pense que c'est pas nécessairement le rêve de tous les Québécois de venir faire carrière en Europe. Par contre, Oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est tellement mythique chez vous. Tu sais, je veux dire, c'est notre histoire aussi. C'est notre histoire à nous, les Québécois, a commencé chez vous. Donc, c'est comme si on venait sur les traces de notre histoire. Et ça, c'est vraiment très touchant. Moi, j'ai découvert aussi avec ma généalogie, à un moment donné, c'était énorme.
Vous parliez tout à l'heure en interview avec Hervé Dujardin, le beau Hervé, on va dire ça comme ça. Donc, comme quoi, en fait, vous en aviez pas forcément une langue commune, mais une demi-langue commune. Est-ce que vous pouvez expliquer la demi-langue?
Ben, en fait, c'est juste qu'on se rend compte, surtout au début, en fait, parce que c'est très surprenant, qu'il y a des mots que vous ne comprenez pas du tout. Et les anglicismes, c'est pas les mêmes. Tu vois, vous dites shopping, nous on dit pas ça, on dit magasiner, tu vois. Mais les Français, ça les fait marrer, magasiner. Donc, il faudrait presque écrire un dictionnaire, en fait, franco-québécois. Tu vois, moi, c'est un truc, à un moment donné, que j'ai pensé à faire. J'ai pas encore eu le temps, mais ça serait vachement sympa de faire ce dictionnaire-là pour. Parce que des fois, ça fait marrer aussi capoter quand je dis souvent aux gens, mais je capote sur vous autres, ben raide! Tu sais, les gens, ça les fait marrer. Puis en même temps, tu vois, pour nous, c'est quotidien. Donc, on est habitué.
Quel est votre rapport quand vous voyez peut-être au Canada des Français qui immigrent chez vous, finalement, avec leur propre expression?
En fait, nous, on vous connaît mieux que vous. Fait que c'est un peu, c'est très spécial. Si tu veux, maintenant, le plateau Mont-Royal à Montréal, et il y a beaucoup, beaucoup de Français, parce que, en fait, les Français adorent le Québec. C'est un lieu qui est très sympa pour vivre. Donc, on vous connaît bien. On connaît bien aussi l'argot français. Il y a quelques mots qui sont. Le verlan, c'est quand même encore quelque chose de très spécial, là, comme relou, tout ça. Moi, j'apprends ça tranquillement, là, tu sais, ces expressions-là. Mais sinon, on vous comprend bien quand même.
Les radios publiques francophones font un spécial Bashung en 10 épisodes. Il y a Radio-Canada, évidemment, il y a la Suisse romande, et puis France Inter. Et vous rêvez plus tard, dans 5-10 ans, d'être compilé comme ça, d'avoir le détail sur votre carrière. Il y a eu Alain Bashung, il y a eu Souchon.
Ah oui, oui, donc ça c'est sûr que oui. En fait, moi, je suis une artiste. Maintenant, je me définis comme une artiste franco-québécoise et j'ai envie de parcourir la francophonie. J'ai même envie d'aller en Afrique. Tu vois, ça m'intéresse, tous les francophones dans le monde. Donc, puis ce mélange culturel-là, encore là, je reviens souvent à ça, mais c'est tellement riche. Tu sais, l'expérience humaine, tout ce que tu apprends là-dedans, tu deviens une autre personne, un autre artiste.
Peut-être pour revenir sur l'album et puis aussi sur le texte aussi, tu l'as dit en début d'interview, la France, c'est même Paris, c'est quelque chose aussi qui t'intéresse beaucoup. Tu as fait une chanson là-dessus, c'est aussi un hymne à ce pays aussi?
Si tu veux, oui, c'est vrai que ça peut être vu comme ça. Ça a été un hasard un peu cette chanson-là, comme plusieurs de mes chansons, mais il y a eu les attentats le 13 novembre 2015. Ça a été hyper compliqué à vivre pour tout le monde. Puis moi, ça n'arrive pas dans mon pays. Dernièrement, c'est arrivé, malheureusement. Mmh. Et donc, il y avait le Québec qui m'appelait, la France, tout le monde était inquiet et tout. Donc, j'ai eu besoin d'écrire une lettre d'amour à Paris. Puis, en plus, je jouais à la délégation du Québec à Paris, 3 jours plus tard, sur le piano de Luc Plamondon. Et c'était tout à fait approprié de venir chanter Paris à ce moment-là. Et je devais dire quelque chose. Je pouvais pas juste... c'était un spectacle 3 jours après. Tout le monde vit l'émotion tellement intensément. Tu peux pas, en tant qu'artiste, rien dire. Je me suis rendu compte de ça avec le temps. Qu'il y a des choses qui me touchent vraiment profondément. C'est en chanson que j'ai besoin de prendre la parole. C'est pas avec justement la parole même.
C'est quoi le papier chaud? Papier chaud, vous dites comment?
Le papier chaud, ben ça c'est encore une expression québécoise parce que c'est vraiment pas pire, tu vois. Nous on dit ça au Québec, c'est vraiment pas pire, ça veut dire c'est vraiment pas mal. Et ça fait marrer les Français et tout. Puis souvent je sortais de scène, puis les gens ils me disaient, pis t'as-tu aimé ça ton show? Je disais, ouais, c'était vraiment pas pire. Puis ça faisait marrer les gens, puis à un moment donné je me suis rendu compte qu'il y a un côté hyper convivial dans ce spectacle-là et dans ce que aussi de ce que je partage avec les garçons sur scène qui m'accompagnent, qui sont parisiens. Et il y a ce mélange culturel-là, et on ressemble un petit peu à une famille, tu vois, qui blague tout le temps. Donc, je trouvais que le papier chaud, c'était intéressant pour ce nouveau spectacle-là que j'ai commencé à donner, parce que, si tu veux, le premier album, je parle beaucoup, hein, je suis machine à parler, là, merci. C'est horrible!
Mais, comment vous les avez rencontrés, les deux musiciens parisiens?
Ben, c'est ça, en fait, c'est que sur le premier album, il y a eu la tournée Me V'là, si tu veux, la tournée officielle de l'album, qui est la tournée mon immeuble-là. Et j'ai commencé à bosser avec mon bassiste à cette époque-là. Et après ça, j'ai eu envie de faire quelque chose de complètement fou, tu sais, de garder quand même la tradition de la chanson, mais d'incorporer de la folie, justement des trucs un peu comme j'ai fait avec Olde Laf et tout, de marrer sur scène, tu vois, de parler aux gens.
Presque un one-man show, hein?
Ouais, de recouper, si tu veux, tu sais, de mélanger des choses, tu sais, de mélanger le one-man show et la chanson. Donc, de donner un truc entertainment au public, donc ça serait quelque chose de vivant, quelque chose de, que les gens vivent, qu'on vive ensemble vraiment une vraie expérience, tu vois. Et donc, je suis allée dans cette direction-là. Et là, il y a des chansons de mon album Meuf-là ce soir et aussi de mon nouvel album, qui pour l'instant pas encore de titre officiel, qui est en construction, on est en train d'enregistrer et tout.
Donc, en France, l'enregistrement?
Ouais.
Et donc, c'est inspiré aussi de l'actualité, de peut-être un peu plus d'humour aussi, ou c'est aussi sur la continuité de Meuf-là?
Je trouve qu'il y a quelque chose qui est dans la continuité, puis il y a aussi quelque chose qui tranche, si tu veux. Donc, il y a un peu plus d'humour. Je pense qu'il y a vraiment des trucs qui sont encore... Il y avait déjà de l'humour sur mon premier album parce que j'avais fait la chanson sur Michel Drucker qui a fait énormément de vues sur Internet.
Justement, faire un blues pour Michel Drucker qu'on voit partout, c'est un dinosaure. Tout le monde le connaît depuis l'enfant. C'est pas un peu trop, quand même?
Moi, je trouve ça très drôle parce que personnellement, c'est un truc que, si tu veux, j'ai rien calculé, tu vois. Je suis arrivée ici, Michel Drucker, on sait que c'est la première entrevue de Céline Dion qui a accueilli Linda Lemay, Charles Bois, tous les Québécois, ils adorent le Québec. Donc, pour moi, c'était la référence, Michel Drucker, tu sais. C'était la référence pour une Québécoise, pour une chanteuse québécoise. Donc, j'ai eu envie de lui rendre hommage avec cette chanson-là qui est drôle et quand même décalée. Donc, je dis toujours en entrevue, c'est une déclaration d'humour et d'amour, tu vois, pour Michel Drucker. Et puis, ça faisait marrer les gens en spectacle. Les gens, ils vivaient un vrai bonheur, tu vois. Puis je me sentais plus proche d'eux au début. Parce que quand je suis arrivée vraiment avec mes références québécoises. J'avais pas du tout les mêmes références que les Français. Et je pense que ça aussi, pour répondre à ta question, ça va changer sur le deuxième album parce que j'ai un peu plus les mêmes références que les Français, étant donné que je vis ici maintenant.
C'est quoi rester sur le break dans les rapports hommes-femmes? Vous pouvez expliquer cette expression?
Rester sur le break, ben, ça veut dire rester sur sa fin, peut-être. Tu vois? Rester sur le break, ça veut dire tu ne peux pas trop avancer.
Sur le frein,
voilà.
Ah, oui.
Voilà, exactement. Ça, c'est bien traduit. Merci, monsieur. Oui. Il me faut encore un traducteur avec moi, là.
Le break en anglais, c'est le frein.
Oui, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. C'est un anglicisme. Ouais.
Alors peut-être la suite pour toi, donc ce soir j'imagine qu'il y aura pas mal de jeux de scène aussi avec le public aussi, et puis d'autres concerts aussi en France voire ailleurs déjà aussi.
Oui, bien en fait, en ce moment, on est principalement en studio, donc sur justement, comme je te disais, le deuxième album. Et ça va super bien, donc on va bosser là-dessus beaucoup cet été et cet automne. Et cet automne, on recommence les spectacles, donc à travers la France. Et voilà, il y aura une grosse date, je ne peux pas en parler tout de suite, mais il y aura une grosse date
on
aussi.
On peut le dire, ça restera entre nous.
Ça restera entre nous, bon, bien. Il y a une rumeur d'Olympia pour la Morissette, là. Fait que, voilà, fait que donc on prépare ça... très fort. Et c'est ça, je vais aussi avoir la chance de faire la première partie de Grand Corps Malade en 2019 aussi. Donc, ça va être un événement important pour moi.
Alors, peut-être une expression fétiche que tu aimes chez les Français? Une expression... parce que là, on a parlé beaucoup d'expressions québécoises. Mais est-ce que tu as une expression française que tu raffoles?
Je me barre en caisse. Ça me fait marrer. On dirait que t'es dans un film, tu vois. « Non, je me barre en caisse! » Il y a un truc qui est complètement... C'est comme, pour moi, c'est presque stéréotypé, tu vois. Fait que quand je l'entends, il y a mon bassiste, des fois, qui dit des trucs très, très parisiens. Puis ça me fait marrer. J'ai l'impression de c'est presque pas réel pour moi.
Merci beaucoup. C'était donc une interview réalisée avec Geneviève Morissette. On poursuit directement avec un extrait du premier album éponyme de Geneviève Morissette, Meuf-là.
Salut, mon cœur me court après, je m'inventerai bien un rhume pour manquer le show par exprès. Le monde parle fort, mais j'entends juste mon âme qui crie. Je trouve ses nerfs, je sens plus mon corps. La scène, c'est toute ma vie. Me v'là, me v'là tout nu devant vous. J'ai peur de tout, j'ai peur de nous, j'ai peur de moi. Avant de venir ici, j'aurais dû m'acheter de la confiance dans les boutiques de vie parfaite. Sur Saint-Laurent, il y a tout le temps des ventes, mais j'ai des trous dans les poches. Chante un peu comme on quête pour de l'amour, pour qu'on se rapproche. Mais votre silence est une tempête. Me v'là tout nu devant vous. J'ai peur de tout, j'ai peur de nous, j'ai peur de moi. Surtout me v'là, oh, me v'là tout nu devant vous. J'ai peur de tout, j'ai peur de nous, j'ai peur de moi. Surtout.
Geneviève Morissette, le titre Me V'là, elle était l'une des têtes d'affiche québécoises présentes lors de ce festival Fête de la chanson en 2018. Un autre focus, hein, Pierre-Charles, était consacré aussi aux Québécois. Tu en as pu faire une chronique, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est le film Gabriel de Louise Archambault qui est sorti en 2013. Et donc j'en ai fait une chronique. Et il y a dedans le parrain du festival, Robert Charlebois, qui joue son propre rôle, puisqu'il y a une chorale, mais tout ça sera expliqué dans la chronique. Gabrielle est un mélodrame canadien écrit et réalisé par Louise Archambault. Elle étudie l'art et devient photographe de plateau assez vite. En 1999, elle réalise son premier film, un court-métrage, et sort son premier long-métrage en 2005 avec Familia, où elle crée déjà son univers. Elle se passionne sur la vie quotidienne, notamment les relations intrafamiliales. Elle s'intéresse à la vie quotidienne d'une maison de santé, ainsi que pour une chorale, la chorale des Muses, qui existe vraiment et qui est intégrée à sa fiction, ce film Gabriel. Le groupe répète Lindbergh et un homme ordinaire tiré du répertoire de Robert Charlebois, qui fait une participation dans ce film en jouant son propre rôle. Cette fiction mélangée à du documentaire est un des points forts de ce film, Louise Archambault ayant fait passer des tests à Gabrielle Marion Rivard, une des patientes de cette maison de santé, et l'a choisie pour en faire le personnage central du film. Son partenaire est un acteur professionnel, Alexandre Landry. La réalisatrice a choisi cette femme, Gabrielle, car elle a été convaincue qu'une actrice... La réalisatrice a choisi cette femme, Gabrielle, car elle a été convaincue qu'une actrice jouant une personne avec un état mental atypique serait vouée à l'échec. Son partenaire, Alexandre Landry,
a lui été émergé pendant plusieurs mois au sein de cette maison de santé pour imprégner du lieu et de son rythme de vie. La relation au corps et la sexualité et au droit aux relations amoureuses dans les personnes de santé mentale fragile est au centre du questionnement sociologique de ce film. Ces personnes déficientes mentales sont magnifiquement défendues par Gabriel Marion Rivard.
Voulez-vous toujours la fin, le spectacle, non?
Oui. Oui.
Ben là, avec Charlotte Bois, c'est sûr.
Bye, Martin.
Bonjour, Gabriel.
Salut.
Bye.
Gabi.
Plus fort que tout, accroché aux branches, l'air me sent encore plus doux.
Pendant que les champs brûlent, j'attends que mes larmes.
Hey, Gab est amoureuse.
Et quand la plaine ondule,
je suis un peu obligée d'avertir les personnes responsables pour s'assurer que le message a bien passé.
Mais penses-tu qu'ils se sont touchés?
Muriel? As-tu touché au pénis de Martin?
Oh non, 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 j'ai pas touché à son pénis.
Ils sont pas touchés.
Mon Martin, il avait jamais fait ça avant.
Ben, il était peut-être temps.
Tout le monde a le droit à l'amour, non?
Tu sais que c'est pas pareil pour des gens comme eux.
Moi aussi, je veux juste habiter en appartement comme toi. Je veux juste être normale comme toi.
En appartement toute seule, voyons donc, c'est pas réaliste. Moi, je pense qu'elle est très bien chez Laurent.
Ben oui, ça t'en demande pas trop.
La scène de répétition avec Robert Charlebois, vedette accomplie, et incarnant chanson québécoise des années 70, est particulièrement émouvante. Martin, amoureux de Gabrielle, discute avec Robert Charlebois avant de commencer à répéter la chanson « Un homme ordinaire ».
Si je chante, c'est pour qu'on m'entende. Quand je crie, c'est pour me défendre. J'aimerais bien me faire comprendre. Je voudrais faire le tour de la terre.
Papa veut pas que t'appelles.
Veux-tu être mon John Martin?
Et commentaire.
Oui.
Moi aussi.
Voir de quoi le reste du monde a l'air.
Ce film est un régal pour les expressions québécoises. Toujours aussi charmante et surprenante pour nous, les cousins français. Décrouille-toi, arrive là, dit l'éducateur à Martin au téléphone pour qu'il se dépêche de venir aux répétitions de chant. Ou bien « je suis tanné, j'ai pas le goût », dit Gabriel dans un moment où la fatigue et les incompréhensions des parents et des éducateurs commencent à lui miner le moral et la santé. « Ça m'écœure, pour ça me contrarie. Une crise de chute en parachute » dans la chanson Lindbergh, avec les airs roulés à la québécoise par le grand Robert Charlebois, qui se reprend en écho avec l'accent français, comme le fait sa choriste qui croise son chant avec celui de Robert.
J'ai fait une chute, une crise de chute en parachute. Et j'ai retrouvé ma Sophie. Elle était dans mon lit avec mon meilleur ami. Et surtout mon pot de biscuit. Elle est là que j'avais ramassé.
Donc c'était une chronique sur le film Gabriel qui a pu être diffusé lors du festival Fête de la Chanson 2018.
Voilà, c'est ça, c'était passé le dimanche matin avec une présentation de Nadia Paschetto de Plan Séquence.
Donc pour poursuivre cette émission, donc il y a aussi une interview qui a été réalisée avec les filles de Panenki qui étaient programmées dans le festival dans le cadre de Une heure avec.
Voilà, c'était le dernier groupe.
Voilà, j'ai les...
Merde.
Voilà.
Vas-y.
C'était le dernier groupe qui passait une heure avec, juste avant la fermeture avec le bal Orchestre International de Vietex.
Bah en fait, dans la première émission, je rajouterai, comment il s'appelle, Medicayenne.
D'accord. Voilà, j'ai le club des cinq Lilloises autour de moi. Ma première question, ça va être à Carolina. Comment vous êtes rencontrés dans le Grand Lille? Parce que nous, on parle du Grand Arras. Comment ça s'est passé?
Bah, en fait, il y a presque 6 ans que je suis arrivée en France. À la base, je voulais rester un an ici. Finalement, je suis restée 6 ans. Et puis, j'ai rencontré Jeanne, Clémence, Solo, grâce à un ami, Marcel, chez qui j'ai habité, tout simplement. Du coup, tout d'abord, on est le groupe des amis, simplement, voilà. On a trouvé la même passion.
Tu viens de quelle ville en Pologne?
Je viens de Owawa. Owawa, c'est une petite ville juste à côté de Wrocław. Je pense qu'en français, on dit Wrocław, quelque chose comme ça, qui est plutôt grande ville, c'est plutôt sud-est de la Pologne.
Donc votre répertoire, il y a à la fois du tchèque, du tzigane, du polonais. Polonais, on en comprend un peu avec Carolina. Les autres registres, ils viennent de... Le tzigane, c'est... Parce que j'ai cru comprendre, par exemple, Mehdi Kayen a fait son rappel, il a chanté au Pharos, en rappel, une chanson de Eder Lerzi, du temps des Gitans, le premier long métrage des Costa Rica. Vous allez le jouer aussi? Alors, une autre version?
Oui, effectivement, Eder Lerzi, c'est un traditionnel assez connu du répertoire tzigane. Et c'est une chanson qui nous tient bien à cœur. C'est d'ailleurs sur cette chanson qu'on a fait notre première scène avec Solo. Et pour la petite histoire, oui, effectivement, je pense qu'on est toutes venues avec nos influences. Moi, dans mon milieu professionnel, j'ai longtemps travaillé avec des Roms, d'où j'ai connu un peu la musique tzigane. Solo, très musique du monde. Jeanne, chanson française. Et ce qui fait qu'aujourd'hui... Et Anne France, alors là, qui touche à tout... Et on est chacun arrivé avec nos influences et ça fait ce melting pot qui fait qu'on s'appelle Panienki et est ce qu'on est aujourd'hui. Et
comme disait Bobby Lapointe, le violon où tu joues faux ou tu joues tzigane. Alors Anne-France, comment ça se passe? J'imagine que t'as pas commencé par le répertoire tzigane.
Non, moi je suis d'une formation classique par le conservatoire. Bon, donc j'ai appris comme ça beaucoup de techniques aussi. Enfin, je pense à... Là on est sur la musique d'Europe de l'Est, mais je pense à des compositeurs comme Kreisler et tout ça qui sont aussi d'Europe de l'Est et qui écrit beaucoup de techniques pour le violon. Et ce qui est génial, c'est de se rendre compte que sa sœur aussi jouait dans les musiques traditionnelles. Et voilà, j'ai rejoint les filles pour remplacer Noémie Ley, en fait, qui est violoniste. Je jouais déjà un petit peu avec Jeanne, hein, comme on est des amis, et puis elles m'ont demandé. Et au départ, moi, j'étais dans le public pour les Panienki, et c'est une musique qui me touchait à cœur. Et de pouvoir jouer, du coup, ça, c'est fort, c'est riche en émotions. Et voilà, mais c'est vrai que non, je viens du classique, mais je joue un petit peu en tzigane, en tango argentin aussi.
Et du registre de jazz, peut-être un peu?
Un petit peu. Lockwood aussi, avec les bouquins cordes et âmes aussi, c'est vrai, avec un violon électrique aussi, mais dont j'aime un peu moins parce qu'on n'a pas la chaleur du bois et j'aime bien sentir l'instrument vibrer, donc c'est pas du tout la même approche.
Voilà. Et alors j'ai à mes côtés la contrebassiste qui vient de la chanson française, c'est ça? Je te vois bien faire dans le registre chanson réaliste, il y a eu beaucoup de contrebasses, pas des contrebasses guitare basse, mais des contrebasses comme tu as un beau corps de bois. Et donc il y a beaucoup de, même dans le punk un peu acoustique, il y a beaucoup de contrebasses comme ça, j'imagine. Tu jouais dans quel groupe? Voilà. Ouais, je fais des questions un peu longues.
Hein. J'ai joué, c'est vrai que j'ai commencé moi au lycée, j'ai commencé par la basse électrique en fait. En jouant avec des amis, j'ai commencé par du ska jazz, la chanson française et aussi du jazz manouche. Et après, au fil des rencontres, quand je suis arrivée sur l'île, j'ai rencontré pas mal de musiciens de chansons françaises, on va dire mon côté punk, la Roquette à nous, Lénine Renault, avec qui j'ai progressé et je me suis mise à la contrebasse comme ça.
Avec Franck et
Cyril, voilà, notamment avec Cyril dans Croco. C'est là où j'ai appris vraiment la contrebasse en 15 jours de temps. Il m'a dit, bon, dans 15 jours, on fait une grosse scène. J'ai dit, ok. Et voilà, j'ai démarré comme ça.
Et là, j'ai la percussionniste à ma droite, c'est Solo. Solo, tu as plein d'instruments, tu es en cours d'accordage avec ton...
Kalimba. Avec le kalimba, ouais.
Alors, c'est un piano d'ongle, je crois, qui...
Un petit piano à doigts, ouais. Un piano à doigts, donc c'est un instrument avec des lames et un corps en bois.
Tu expliquais aussi que tu t'es fait faire ton instrument indien de percussion en poterie. Tu peux nous expliquer comment ça s'est passé?
Oui, alors en fait, je jouais dans une pièce de théâtre et à un moment donné, on cherchait un instrument qui pouvait symboliser la féminité, la naissance, enfin quelque chose de plutôt rond. Du coup, on travaillait avec un potier et je lui ai demandé de fabriquer un instrument rond avec deux trous. Voilà. Et je m'en suis servi dans cette pièce. Et puis là, quand on s'est retrouvé avec les filles, j'ai ressorti cet instrument que je n'utilisais plus. Et là, j'ai appris que c'est un instrument qui existait déjà, qui s'appelait un oudou. Voilà. Donc en fait, c'est un oudou, mais sauf qu'il est en terre.
Oui, c'est ça. Et en fait, il y a quand même au moins trois notes. Je croyais des aiguilles, un grave un peu bizarre. C'est quoi les différentes notes que tu as essayé de sortir, que j'ai essayé de distinguer plutôt, moi, sur ces percussions, parce que je connais pas cette percussion.
J'essaie de sortir au minimum trois notes. Ouais.
C'est ça, oui.
Il y a effectivement une belle grave, bien grave et bien ronde, une médium et une claire. C'est ça.
Et tu joues aussi des bongos.
Des bongos, voilà. Aussi. Je joue aussi des bongos, ouais.
C'était, je sais pas comment ça s'appelle, c'est des métals.
Ah oui, un chime. Oui, c'était très à la mode dans les années 80, on en mettait absolument partout.
Pour vous revenir au répertoire, donc tu chantes en polonais, j'imagine, à part peut-être Ederlezi.
En fait, Ederlezi, on a fait, c'est la version, notre version, qui ont trois langues différentes. Du coup, la langue originelle, la langue polonaise et la langue...
Djula.
Voilà.
C'est une vraie langue ou...
Une vraie langue qui vient de Côte d'Ivoire. Enfin, c'est une langue qui est parlée dans pas mal d'endroits, mais beaucoup en Côte d'Ivoire. En Afrique de l'Ouest, plutôt.
Vous avez pas mal de liens de parenté avec Baro Biallo, j'ai l'impression, parce que ils ont beaucoup voyagé, ils importaient pas mal de musique différente. Vous voyagez en musique, je parle. Hein. Votre répertoire, il est uniquement en Europe ou ça va plus loin?
Non, on part aussi en Afrique, à Madagascar, et puis on part aussi en Israël avec des chansons en hébreu. On part aussi au Maroc avec des chansons en séfarade.
Afrique de l'Ouest, elle disait.
Ouais, ouais. Oui, avec effectivement avec des paroles en djoula.
Ouais.
Russie.
En Russie aussi. Ouais.
Vous avez sorti un CD de 10 titres. C'est à peu près ce que vous avez comme répertoire. Vous avez un répertoire d'une trentaine de titres en répétition et vous en avez enregistré 10.
Au total, on a combien hein? 20 titres, tout ça c'est, enfin, presque tout ça c'est des reprises, là on a seulement commencé à composer, voilà, on se lance dans la composition, sinon c'est les reprises, voilà, comme on avait dit, enfin, la plupart de cette chanson c'est quand même les chansons de l'Est, mais on essaye de ne pas être limité, on aime bien dire quand même que c'est la musique du monde et pas que la musique du l'Est pour pas avoir des...
Les influences, voilà.
Merci, le Club des 5. Est-ce que c'est possible d'avoir un petit jingle, par exemple, un refrain que vous faites a cappella, là ? Vous le faites là, pour un seul micro, simplement. Si vous faites plus, c'est encore mieux. J'ai qu'un seul micro.
Pom, 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 pom,
Para, 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 para,
Voilà, c'était une exclusivité. Merci. De Pam Yenky, et c'était vachement beau d'avoir ces cinq musiciennes faire a cappella ce titre. Il y a une sixième musicienne qui est arrivée, c'était la violon altiste, pour le concert en elle-même, mais elle n'était pas là au moment de l'interview. Et donc ça, c'était le dernier concert, une heure avec. Et
avant, voilà, avant la soirée, on va dire un peu déglingo,
du VTEX.
Voilà, de l'Orchestre International du VTEX, qui clôturait brillamment cette 14e édition du festival Fête de la Chanson, dont tu as pu les rencontrer, puis enregistrer aussi quelques extraits lors de leur concert très festif, hein.
Oui, c'était, il y avait une ambiance terrible. Le problème, c'est que là, c'est le victime du succès. La cour de l'hôtel de Guine est très petite, et donc il y a pratiquement pas de place pour danser. Moi, je suis rentré me coucher et me reposer parce que j'étais claqué. Mais en tout cas, il y avait de l'ambiance, en tout cas. Et donc, j'ai rencontré deux musiciens avant pour l'interview, juste avant leur concert. Bonjour, la première question, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter chacun ?
Alors, moi je suis Thomas, trompettiste et compositeur du VTEX.
Ben, tromboniste et tubiste du VTEX.
Alors, la musique de l'Orchestre International du VTEX, c'est déjà, Hervé l'a dit, trois nationalités. Il y a les Belges, mais il y a les Wallons, les Flamands et aussi des Français. Au niveau du répertoire, il y a beaucoup plus que ça, je crois.
Oui, on fait quasiment tous les continents. Hein. On a de l'Africain, du Yougoslave, du Latino-Américain, ben voilà, il y a vraiment de tout.
Il y a une vague du rock balkanique un peu à la Emir Kusturican Zono Smoking Orchestra. Ça vous convient ça ou pas?
Ouais, alors on n'est pas très rock, on est plus punk dans l'esprit. Et après, pour la musique, ouais, Balkan, une musique de l'Est.
Donc finalement, c'est un peu comme l'orchestre Palnien qui joue de la musique majoritairement d'Europe centrale.
Elle joue des traditionnels d'Europe de l'Est, hein, donc Pologne, Hongrie, ex-Yougoslavie. Nous, c'est plutôt un tour du monde, on va dire. Hein. C'est vraiment axé. Il y a beaucoup de Balkans. Voilà. C'est pas du traditionnel Balkan, attention, hein, c'est de l'inspiration balkanique. Tout comme il y a de l'inspiration sud-américaine, africaine, méditerranéenne et plein d'autres choses.
Vous avez beaucoup de. Vous faites des grosses tournées, j'imagine. Quelles sont les prochaines dates que vous faites, à part Arras, qui clôture le. Vous clôturez le festival Fête de la Chanson 2018, mais j'imagine que vous avez des dates autres prévues.
Ouais, là, en début juillet, on va faire une petite tournée en Pologne, quelques dates. Après, on va jouer à droite à gauche.
Donc oui, on fait une tournée en Pologne, on arrive à Wrocław le 3 juillet, du 5 au 9 on sera à Cracovie, ensuite le 14 on a un festival de jazz dans le nord encore, à Sarpotry, un festival Jolly Jazz, le 15 on sera à Rekem en Belgique, ensuite on arrive au mois d'août, il y a le 5 août on sera au fin fond de la Belgique, à Bokrijk, un domaine provincial, un peu nature, etc. Le 12, on sera à Ham, en Belgique, Ham, H-A-M, pour le Folk Festival. Ensuite, le 25, on sera à la fois à Vilvoorde et à Ypres. Et le 26, on sera à Namur, août toujours.
en Belgique. Vous avez vos derniers albums, ils datent de quand? C'est toujours dans le même registre? Il a été enregistré dans quelles conditions?
Cet album-là, contrairement au précédent, était enregistré dans des conditions à peu près normales. Parce qu'il faut savoir que notre premier album, on l'a fait donc en 2005 à la Maison Folie de Moulins. Le second, on l'a enregistré à Courtrai au Conservatoire. Et pour le troisième, qui est un des plus fournis, on va dire, on l'a enregistré en Serbie, à Novi Sad, donc un peu au nord de Belgrade. Et le dernier, on l'a enregistré chez un de nos musiciens qui est aussi ingénieur du son à Anvers.
Il y a un site internet pour vous retrouver facilement, pour retrouver les dates ou vos morceaux?
Tout à fait, donc www.vetex.org.
Merci beaucoup. Voilà, c'était l'interview des deux musiciens et aussi compositeurs de l'Orchestre International du Vetex.
Et puis finalement, c'est sur l'Orchestre International du Vetex que
nous allons conclure.
Voilà, que se termine déjà le bilan de ce festival Fête de la Chanson 2018. Où on a pu découvrir pas mal de choses, apprendre quelques jargons québécois. Hein.
Oui, c'était sympa. C'était vraiment, on a voyagé. Et côté musique du monde, il y avait plein de pays, plein de langues, comme vous avez entendu Panienki. Et vraiment, c'était vraiment un super festival, un super moment.
Merci à tous et merci encore pour l'accueil à cette fabuleuse organisation. J'ai presque envie de dire à l'année prochaine.
Ben oui, à l'année prochaine. Peut-être la Suisse, je ne sais pas quelle sera la nation invitée francophone.
Restons curieux.